cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 2 février 1987.
Bien voir. latin. Parmi les pères grecs auxquels il serait intéressant de bien voir, ce serait Saint Basile, chez qui le mot prosopone n'est encore que l'aspect sous lequel apparaît l'hypostasis, le visage du Père, du Fils ou de l'Esprit, et comme tel ne peut suffire à les distinguer. C'est quand même très curieux, ça, de voir, voyez, le lien dans Saint Basile entre prosopone et hypostasis. Est-ce que c'est ça qui va être un point de vue intéressant? Le mot hypostasis est né, si vous voulez, dans la philosophie grecque, d'une façon très souterraine. Regardez les étymologies du mot hypostasis. Voyez comment hypostasis prend une place énorme dans le néoplatonisme. Et comment le mot prosopone est lié à la personne humaine avec les stoïciens. Le mot prosopone est beaucoup plus lié à l'aspect éthique chez les stoïciens, c'est net. Et le mot hypostasis, qui part de très bas, comme l'étymologie l'indique, hypostasis, je vous l'ai déjà dit, c'est... regardez dans la philosophie grecque, dans la philosophie d'Aristote, le mot hypostasis. Et voir comment ce mot, qui est beaucoup plus lié à un aspect ontologique, va en philosophie néoplatonicienne prendre cette place étonnante. Donc il y a là quelque chose d'intéressant au point de vue, voyez, filière des mots philosophiques. Donc prosopone n'est encore que l'aspect sous lequel apparaît hypostasis. C'est un aspect. Le visage du Père. Saint Basile déclare que ceux qui disent que ousia et hypostasis, c'est la même chose, se voient dans l'obligation de ne confesser que les prosopas seulement. Alors vous avez ousia, hypostasis, prosopone, et prosopone n'est que l'aspect. Oui, ce n'est pas l'aspect ontologique premier, fondamental. C'est évident que Saint Basile n'est pas un métaphysicien hors ligne. C'est pas ça qui devait tuer Saint Basile. Saint Basile joue un rôle extraordinaire au point de vue monastique. Et au point de vue de la pensée, vous voyez, quand on est en face de ces affirmations-là, on voit bien que les choses ne sont pas encore précisées du tout. Bruges, dans son livre justement sur Saint Basile, l'introduction à Basile de Césarée sur le Saint-Esprit, dit ceci: Basile professe une certaine méfiance à l'endroit du mot prosopone, qu'il emploie peu, parce que sans doute à ses yeux, il n'est pas complètement dépourvu de saveur sabellienne, c'est-à-dire le mode. Donc prosopone exprime plus la manière d'exister que la substance. C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, ce n'est pas l'aspect substantiel, on oppose un peu les deux. Tandis que hypostasis est directement lié à la substance. Donc, c'est toujours pour montrer la difficulté qui existe entre ce mot prosopone, personne, hypostasis, substance. Dans les considérations actuelles à propos de l'embryon, on dira que l'embryon n'est pas une personne. C'est par le fait même, quand il s'agit de dire que c'est un crime ou pas un crime, on mettra quelques petits bémols. s'assise et de ne plus grossir et de regarder que la personne. La personne, c'est beaucoup plus difficile de dire qu'un embryon est une personne. Tandis que dire dans un regard métaphysique que dans l'embryon, il y a une âme créée par Dieu. Mais tout de suite, le problème prend cette acuité. C'est l'aspect de la substance. Alors c'est très curieux qu'on retrouve le même problème. Dans des perspectives totalement différentes. Je dis ça, c'est parce que je crois qu'il y a là quelque chose d'important à saisir, qui est difficile. Et ce sera du reste le problème qu'on essaiera de vous de bien comprendre. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment nettement. Réfléchissez-y au moins de voir que substance ou science, qui chez Aristote est devenu quelque chose d'extrêmement précis, va permettre de préciser hypostasis. Vous comprenez hypostasis dans la mesure où vous comprenez aussi. Prosopon s'introduit dans une perspective et par une perspective toute différente. D'abord, l'aspect extérieur, le rôle qu'on joue, la fonction, et puis progressivement, s'introduit comme le tout, une manière d'exister. Vous voyez ? Et que, jusqu'à Saint-Basile, l'hypostasis, prosopon, joue une différence, que c'est pas la même chose, que c'est difficile à préciser, autrement dit. Le mot hypostasis, directement dans l'ordre métaphysique, le mot prosopon a des difficultés à apparaître. Mais cependant, on garde les deux, mais on dit attention, attention. Alors, je crois que ce sera avec saint Thomas. Ça va être ça qui va être intéressant à voir. Ça va avec saint Thomas, de fait, que le mot personne va entrer pleinement dans une vision théologique assumant une métaphysique. Oui, c'est là où je dis que la théologie va donner au mot personne, la théologie chrétienne, va donner au mot personne son pesant d'or, c'est-à-dire rejoindre par la personne la substance. Parce que c'est ça le pesant d'or, c'est que la personne implique la substance. Et donc je ne peux pas penser la personne sans penser l'âme. Et l'âme est mortelle. C'est impossible, je ne peux pas penser la personne sans ça. Celui qui ne veut plus penser l'âme ne pense plus la personne. Saveur sabellienne. Très joli. Saveur sabellienne, c'est les modes. On ne regarde plus la personne que comme un mode. Pratiquement comme une fonction. Et on ne touche plus l'être. Alors, essayez de saisir ça, parce que je crois que ça, c'est important. C'est un problème qui est très crucial aujourd'hui. Voyons. Après saint Augustin, nous avons vu ça rapidement la dernière fois, Boès. Alors, Boès, ça joue un rôle important chez saint Thomas, comme grand-père. Boès, vous savez bien le rôle de Boès, l'introduction. Il a introduit en latin certains éléments de la logique aristotélicienne. In Isagogen Porphyri Commenta. Donc c'est ça l'intérêt chez lui, c'est qu'il traduit l'Isagogé de Porphyre. L'Isagogé de Porphyre reprend les catégories d'Aristote et il en fait un commentaire latin. Et par là, il a introduit dans le latin toute la logique aristotélicienne. C'est peut-être quelqu'un qui... J'allais presque dire, il va continuer un peu le rôle, voyez, de Cicéron. Cicéron, rhéteur, fait passer le grec au latin. Et dans Cicéron, il y a constamment, il y a quelques philologues comme ça, assez particuliers. Le Gratile, Cicéron, Boès, sont des personnes qui ne sont pas des... Du moins pour Platon, c'est différent. Mais pour Cicéron et Boès, c'est plus des rhéteurs, des logiciens que des philosophes. Alors, ils sont des excellents traducteurs. Parce qu'ils s'attachent plus aux mots qu'à la pensée. Les rhéteurs, c'est toujours comme ça. Et le logicien, c'est un peu comme ça aussi. Alors, c'est intéressant de voir cela pour ce problème de la personne. Donc, après avoir dans ses commentaires de Porphyre, où il n'emploie guère le terme persona, présenter la forme de l'individu comme constituée d'accidents, comme une réalité d'ordre accidentel. Très curieux. C'est ce que Occam reprendra. L'individu, c'est une totalité d'accidents. C'est la forme de l'individu. La connaissance, la liberté, l'amour. théologique, que Boèse précise le concept de personne. La définition qu'il en donne est une définition qui a fait, qui a eu toute une importance énorme. Et voici la définition qu'il donne dans son livre. De duabus naturis et una persona. La personne se trouve seulement dans les substances, et en celles-là seules, qui sont raisonnables. Et si toute substance est une nature, et ne réside pas dans les êtres universels, mais dans les individus, la définition de la personne est donc trouvée. La personne est une substance individuelle d'une nature raisonnable. Il faut le savoir. Vous voyez comment il raisonne. Et c'est très curieux. D'un raisonnement par mode, de trouver le fondement. Donc, il dira personne. Là, vous êtes en face du mot grec persona. Donc, personne implique une substance. Puisque jamais un accident est dit personne. Implique nature. Et la nature n'existe. La nature n'existe que dans les êtres individuels. Nature individuelle. La définition de la personne est donc substance individuelle d'une nature rationnelle.
Dave.
aux foies, aux IA, aux iocis, hypostasis, prosopone. Et vous voyez que c'est la personne qui est, comment dire aujourd'hui, la personne qui a fait ce rassemblement. Et seulement la personne. Ce n'est pas la nature, ce n'est pas la substance, c'est la personne qui fait ce rassemblement. Autrement dit, si je veux comprendre ce que c'est que la personne, je vois que tout ça est comme polarisé par la personne. Tout cet ensemble de données, c'est déjà pas si mal, vous voyez. La personne, substance, nature, rationnelle, individuelle. Aucun autre mot fait ce rassemblement. Mais je souligne ça parce que ça... Ça montre que la personne tout de suite apparaît comme polarisant toute une quantité d'éléments. Et que ce mot n'est pas paru du tout comme un mot élémentaire, fondamental, mais au contraire comme quelque chose qui est le fruit d'une synthèse. Et c'est pour ça que je crois que c'est si difficile à réfléchir et à saisir ce qu'il est. Parce que de fait, c'est comme une synthèse. Et je vous dis, ce texte de Boèce est particulièrement intéressant. Après Boèce, passons tout de suite à saint Thomas. Et on va essayer de voir dans saint Thomas quelques aspects de la personne. Si on voulait faire l'enquête entière de la personne chez saint Thomas, je crois qu'on saisirait toute la trame de la recherche théologique chez saint Thomas. Comme lorsque vous cherchez la trame philosophique de Platon, vous voyez que c'est l'âme. Platon, philosophe de l'âme. Saint Thomas, théologien de la personne. Et je crois qu'on peut le dire. C'est vraiment le premier théologien de la personne. C'est pour ça que quand on oppose la morale de saint Thomas en disant que c'est une morale de la nature à la morale d'aujourd'hui en disant que c'est une morale de la personne, on oublie complètement que saint Thomas c'est le théologien de la personne. Je dis ça, c'est parce que aujourd'hui tous ces problèmes se reposent avec beaucoup de force. C'est dans une perspective théologique, dans sa théologie trinitaire et sa christologie, qui sont les clés de voûte de toute la théologie de saint Thomas. Vous ne comprenez rien à la théologie de saint Thomas si vous ne regardez pas ces deux grands axes, la Trinité, le traité de l'incarnation. La Trinité dans la prima pars, le traité de l'incarnation dans la tertia pars. Et tout se comprend en fonction de ces deux grands axes. Or, ces deux axes sont commandés par le motif de la personne. C'est pour ça que je crois que plus on avance dans saint Thomas, plus on voit que cette recherche de la personne est pour lui quelque chose de capital. Ça présuppose tout le reste, mais c'est cette théologie de la personne qui va polariser. Donc c'est dans une perspective théologique que saint Thomas étudie la notion de personne et qu'il l'étudie de fait à travers toutes ses œuvres. À la suite de Pierre Lombard. Bon, Pierre Lombard, vous savez qui c'est? Pierre Lombard est un théologien du 11e siècle qui a voulu faire une synthèse de tout ce qui était important à garder du patrimoine des pères de l'Église. C'est le premier, si vous voulez, qui donne un manuel. Le génie de Pierre Lombard, c'est de faire un manuel. Et c'est ce qu'on cherche pour le catéchisme aujourd'hui. Il faudrait un Pierre Lombard. Faire un manuel. C'est un contradictoires et montrer qu'on peut les unir. C'est tout un manuel, ce que fait Pierre Lombard. Quand vous lisez Pierre Lombard, c'est pas très lumineux. Et Pierre Lombard s'imposait le catéchisme universel. Il s'imposait, Pierre Lombard, les premiers, le premier enseignement de saint Thomas.
Ouais, il l'apprend sous ces trois aspects.
respect. Tu vois, il apprend en la ramenant à ces trois éléments. Genre, différence spécifique et le point de vue sous lequel on regarde. Alors, on exercera à partir de là de voir comment progressivement, dans la somme et dans le débat d'ancien, on arrivera à une notion beaucoup plus parfaite de ce que c'est que la vie.